C'est le bipède le plus rapide au monde.
Pas ça ! Non !
Ses articulations et tendons très élastiques génèrent une puissance phénoménale. Il confère au volatile vitesse et foulée bondissante.
Non ! Non ! Non !
Qu'est-ce que cela peut bien être ?
Un oiseau ? Un bijou ?
Peut-être un corbeau ?
L'autruche est le plus grand oiseau actuellement vivant, mais elle est incapable de voler.
Il est bien connu que les autruches, au long cou, enfouissent leur tête profondément dans le sable quand elles se sentent menacées.
Faire l'autruche, c'est refuser de voir un problème en espérant qu'il s'en aille tout seul.
Ah ! Ce qui est embêtant dans les oiseaux, c'est les mecs.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième numéro de L'Autruche, l'émission qui vous sort la tête du sable, pilotée par les étudiants en master journalisme à l'ESJ Pro Montpellier et à l'université Paul Valéry. Je m'appelle Rose Macaulay et j'ai l'honneur d'être votre animatrice du jour aux côtés de Laura Julien. Cette semaine, nous allons nous intéresser au quartier de la Mausson. Si vous êtes un habitant de ce quartier, vous n'avez pas pu manquer le chantier de l'année, la destruction de la tour d'Assas. Exigée par ses habitants depuis 2015, prévue depuis avril 2021, la destruction de la plus haute tour d'Occitanie a été entamée lundi 23 septembre. Du haut de ses 76 mètres, la tour de 22 étages a vu naître trois générations de Montpelliérains, vivant dans 176 appartements. Ce sont alors plus de 600 personnes qui ont été relogées, habitant depuis 1969 dans ce célèbre village vertical. Souvent pointé du doigt dans les médias pour des problèmes d'insécurité, le quartier, qu'on appelle aussi la Paillade, fait maintenant la une de tous les journaux. Qu'est-ce qui entraîne un tel engouement ? Le projet de refonte de ce quartier emblématique, qui soulève, pour nous en tout cas, de nombreuses questions. Comment refaire venir la mixité dans ce quartier très défavorisé ? Avec quels outils ? Quelle intégration pour les nouvelles infrastructures comme la clinique de Clémentville ? Plus largement, nous allons évoquer les politiques de la ville de Montpellier sur le logement social, y compris dans les nouveaux quartiers de la ville. Pour y répondre en studio, nous aurons le plaisir d'accueillir deux invités. Véronique Brunet, première adjointe au maire de Montpellier. Bonjour Véronique Brunet.
Bonjour Divergence.
Mais aussi Alexandre Brun, spécialiste des questions d'urbanisme et maître de conférence à l'université Paul Valéry Montpellier 3. Bonjour Alexandre Brun.
Bonjour, j'ai pris un peu de grade, je suis désormais professeur des universités, mais peu importe.
Le reportage de Sania Idjadienne et d'Aurélie Perrache nous emmènera au cœur de la Paillade, à la rencontre des riverains de la tour d'Assas. Les habitants nous diront leurs attentes face aux changements qui les attendent. Perrine Sauvage nous parlera de la mixité sociale dans un quartier que nous connaissons bien, la Cité Créative, à deux pas de notre école. Enfin, Maëlle Couillard reviendra sur le parcours du combattant qu'elle a vécu en tant qu'étudiante pour se loger à Montpellier. Si vous êtes prêts, l'autruche, c'est parti.
L'autruche est le plus grand oiseau actuellement vivant, mais elle est incapable de voler.
Il est bien connu que les autruches, au long cou, enfouissent leur tête profondément dans le sable quand elles se sentent menacées.
Faire l'autruche, c'est refuser de voir un problème en espérant qu'il s'en aille tout seul.
Ah ! Ce qui est embêtant dans les oiseaux, c'est les mecs.
Nous sommes avec Véronique Brunet et Alexandre Brun. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Nous souhaitons donc revenir sur ce projet de réhabilitation de la Mausson. Alexandre Brun ou peut-être Véronique Brunet, comment décririez-vous ce quartier aujourd'hui en tant que géographe ou en tant qu'adjointe au maire ? Je vous laisse.
Alors si vous voulez, moi je vais commencer. Décrire le quartier aujourd'hui, eh bien, alors je dirais un quartier en pleine mutation. Un quartier en pleine transformation, en pleine rénovation, en plein embellissement, apaisement. C'est une volonté politique forte portée par le maire de Montpellier, M. Michael Delafosse, de transformer ce quartier pour, effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, y remettre de la mixité sociale, mais également rompre la spirale de dépréciation dans laquelle le quartier s'était quelque peu enlisé ces dernières années, et lui redonner une attractivité nécessaire à la venue dans ce quartier des Montpelliérains, voire même des métropolitains. Et je pourrais détailler, si vous voulez, tout à l'heure, les différentes étapes de la rénovation de ce quartier.
Et vous, Alexandre Robin ?
Ce quartier, il a été imaginé au milieu des années 60. Et finalement, il a l'âge qu'il a, c'est-à-dire qu'il a vieilli, ceux qui l'habitent aussi, d'ailleurs, en partie. Et puis, c'est un quartier qui, compte tenu de la genèse, a accueilli des familles venues d'ailleurs, qu'il a fallu progressivement intégrer, qu'il a fallu transformer en Montpelliérain en tant que tel. un très long processus chaotique, difficile sur le plan social, difficile aussi, vous l'avez dit, en termes de sécurité publique. Pourquoi ? Parce qu'au fond, ce quartier, il est d'abord un quartier excentré par rapport à l'hypercentre-ville, par rapport à la place de la Comédie. On est grosso modo à 6-8 kilomètres au nord-ouest de la place de la Comédie. Et donc, il a fallu greffer ce quartier de la Mausson d'abord par le tramway, par les transports en commun. Ensuite, il a fallu peut-être une deuxième phase en ce qui concerne les transports en commun, c'est-à-dire la gratuité des transports qui favorise évidemment le trafic de passagers. Et puis, au-delà de cette greffe, il faut repenser les fonctionnalités du quartier, non seulement la mixité sociale, mais aussi bien sûr la mixité fonctionnelle, c'est-à-dire de faire en sorte que ce quartier ne soit pas seulement un quartier où l'on dort, mais aussi un quartier où l'on travaille, où il y a de la culture, où il y a des activités sportives, commerciales, ou que sais-je encore. Et c'est là tout l'enjeu des opérations de renouvellement urbain.
Merci Alexandre Brun. J'ai une question pour vous, Véronique Brunet. Vous remplacez Fanny Dombre-Coste au poste de première adjointe. Elle était chargée de l'éducation et vous êtes donc déléguée au quartier Mausson. S'agit-il d'un signal politique pour la fin du mandat ?
Complètement, oui. Je vous le confirme. Effectivement, je remplace Madame Dombre-Coste depuis son élection en tant que députée et j'ai donc accepté d'endosser les fonctions de première adjointe, mais également de déléguer à l'éducation, qui est une des priorités fortes du mandat, et en conservant ma délégation au quartier Mausson, puisque, comme je vous le disais, la volonté politique est forte de transformer le quartier. C'est plus d'un demi-milliard d'euros qui seront consacrés à cette transformation. Pour reprendre les paroles de Monsieur Brun et de ce qu'il a évoqué tout à l'heure, effectivement, ce quartier était excentré. Le tramway a permis sa reliance, si j'ose m'exprimer ainsi, à la ville, mais également une couture avec le quartier Pierre-Vive qui est sorti de terre il y a environ un peu plus de 15 ans maintenant. Et dans le programme de rénovation urbaine, en lisière de quartier, nous construisons des pôles éducatifs. C'est là où ma délégation à l'éducation prend tout son sens.
On en parlera justement tout à l'heure.
D'accord. Qui vise à favoriser la mixité avec le quartier Malbosque, en l'occurrence, et les entreprises et les établissements environnants.
Très bien. Est-ce qu'on peut revenir rapidement donc, sur cette notion de mixité sociale avec vous, Alexandre Brun ? Donc, elle est au cœur du projet de rénovation du quartier de la Mausson. Et donc, qui dit mixité sociale dit aussi logement social. Où est-ce qu'on en est au niveau du logement social à la Mausson, Monsieur Brun ?
Alors, peut-être quelques chiffres pour nous éclairer collectivement. La part de logements sociaux à Montpellier est passée de 19,6% en 2002 à 23,7% en 2019. Ce sont les sources qui nous viennent de l'INSEE. Probablement, le chiffre aujourd'hui est de l'ordre de 25%.
Exactement.
Et donc, ça veut dire que la ville de Montpellier a fait un gros effort sur le logement social. Ça date pas d'hier, hein, c'est un travail qui a été entamé par Georges Frêche. Vous savez que le quartier d'Antigone, au cœur de l'agglomération de Montpellier, comprend du logement social. Et il y a des différences, évidemment, au sein des communes du département. Par exemple, à Agde, de mémoire, on est autour de 9% de logement social. Je le répète, 25% à Montpellier. Et au sein de l'agglomération de 3M, il y a aussi des différences notables. Castelnau est à 18%, Juvignac à 14%, Saint-Jean-de-Védas à 12%, et puis Pérol à 11% et Vendargues à 10%. Donc ça veut dire que il y a évidemment, en fonction des communes, des stratégies relatives au logement social qui varient. Le problème du logement social, au fond, c'est moins le taux que la qualité du logement qu'on offre et le rapport entre l'offre et la demande. Et il se trouve que, où que l'on soit en France, et en particulier dans le sud de la France, et vous savez que l'Occitanie est singulièrement attractive, c'est l'une de ses particularités, la difficulté, c'est d'accueillir des ménages qui viennent du nord de la France, en tout cas de l'extérieur de l'Occitanie et de l'extérieur de l'Hérault, et de pouvoir les accueillir décemment dans des logements sociaux. Et là aussi, il y a eu des efforts de fait, puisque grâce aux opérations soit de renouvellement urbain, soit grâce aux opérations de construction de nouveaux quartiers sous la forme de ZAC, les Grisettes, Malbosque, que sais-je encore, Port-Marianne aussi, le taux de logement social à chaque fois, est relativement élevé, entre 20 et 25%. Ça veut dire qu'on offre, on produit beaucoup de logements sociaux. Sauf que partout aujourd'hui, il y a une tension sur la production de logements tout court et sur le logement social en particulier. Donc l'opération de la Mosson, c'est une belle opportunité d'intervenir non pas sur des quartiers nouveaux qui sortent de terre, mais sur des opérations qui sont beaucoup plus complexes, souvent beaucoup plus longues, beaucoup plus, je dirais, stratégique, tactique, eu égard à ceux qui vivent et travaillent déjà dans le quartier. On fait avec ce que l'on a, et c'est beaucoup plus difficile que de construire du logement social sur des terres qui jadis étaient agricoles.
Donc Montpellier est un petit peu le bon élève du logement social. Tout de suite, on va accueillir Sania et Aurélie. Elles sont parties justement à la rencontre des voisins de la tour d'Assas, en plein quartier Mosson. Les filles, bonjour.
Bonjour Rose.
Bonjour.
Alors oui, c'est exact, nous sommes partis ce jeudi 10 octobre à la Paillade, qui est notamment devenu un énorme chantier qui vit aujourd'hui au rythme des bruits des grues, des marteaux-piqueurs et des 33 tonnes. Au milieu du désordre, la tour d'Assas a déjà perdu quelques mètres. Emblème de la nouvelle Paillade, au début des années 70, la plus haute du quartier était surtout devenue depuis 30 ans le symbole du mal-logement et de l'insalubrité. Sa démolition est aujourd'hui un tournant dans la transformation du quartier et fait réagir les habitants et commerçants.
En effet, Sania, pour Koudir, qui a grandi dans le quartier de la Mosson, la destruction de la tour d'Assas est une véritable perte.
C'est la plus grande tour d'Occitanie. Elle représente quelque chose. De Saint-Georges-d'Or, quand on arrive à la voir, en fait, elle représente quelque chose qui est très connu. Quand on dit aux gens qui ne connaissent pas trop le secteur, la tour noire et blanche à grande tour, ils disent « Ah oui !»
Et il n'est pas le seul à regretter la tour emblématique de la Mosson. Beaucoup d'habitants du quartier se disent peinés de l'avoir détruite sous leurs yeux.
C'est également le cas des commerçants aux abords de la tour. Ce grand chantier a eu un impact direct sur leur boutique. Nabil Boucher n'a pas été épargné.
Ah oui, on a perdu des clients, c'est 60%. Comme elle a moins de clients, c'est normal que tu jettes parce que par rapport à la quantité de commandes, que fin de semaine, tu jettes quelque chose. Non, on va fermer, non, on n'a pas arrivé à ce point-là. Parce qu'il y a des clients qui viennent d'ailleurs, mais on travaille moins que les années dernières. Un qui vient pour la clinique, il ne va pas acheter de la viande.
Tout comme Nabil, Jean, pharmacien, a également perdu une clientèle fidèle. Il reste toutefois optimiste, espérant que l'arrivée d'une clinique privée à long terme ramènera du monde. Mais pour lui, l'urgence est ailleurs. Il faut des médecins pour répondre aux besoins des habitants de la Paillade.
Pour moi, c'est une mauvaise, puisqu'on a perdu centaines de personnes qui avaient dedans.
Clientèle, pour le moment, il y en a qui ne savent pas. Ils croient qu'on a disparu. Il y a quelques temps, on a eu du mal. Ce qu'il faudrait, c'est surtout qu'il y ait un centre de médecins. Parce que les gens, ils ne trouvent pas de médecins. C'est généraliste qui manque ici. Ça urge vraiment.
Merci, Sania et Aurélie. Alors, pour poursuivre un peu sur notre échange qu'on avait débuté avec vous, est-ce que les habitants de la Mosson ont été consultés vis-à-vis de ce qui allait se passer dans leur quartier ?
Alors oui, bien sûr, évidemment. Par rapport à la tour d'Assas notamment, vous n'êtes pas sans ignorer ce travail énorme de mémoire qui a été fait. Vous avez évoqué le village vertical de l'Or Pradal tout à l'heure. Mais pendant des mois, la tour d'Assas a été dédiée à un permis d'imaginer qui a permis à des associations, des écoles, des artistes d'être en résidence au dernier étage et de produire un travail de mémoire avec les jeunes et les moins jeunes et les anciens habitants. Effectivement, la problématique des commerçants du pied de la tour d'Assas a été posée, mais je voudrais ici, permettez-moi, remercier les équipes de la mission Projet et les équipes de la SA3M qui font des opérations de relogement des commerçants. Et on ne parle même pas des habitants parce qu'ils ont été accompagnés effectivement dans du relogement. J'oserais dire à la carte, puisque pour ceux qui souhaitaient quitter le quartier, cela leur a été facilité, mais pour ceux qui souhaitaient rester dans le quartier parce qu'ils y étaient attachés, cela a également été rendu possible. Quant aux commerçants, les opérations de délocalisation se sont faites en négociation et nous avons aménagé un petit peu plus loin un espace commercial rénové pour leur permettre, le temps des travaux et de la remodélisation de cette entrée de quartier, de cette entrée de ville, pour leur permettre de continuer leur activité commerciale. Donc oui, les habitants ont été consultés. Oui, effectivement, il y a des nostalgies et des opinions un peu chagrines quand on parle de la destruction de la tour d'Assas, qui était un symbole de la ville et qui est un peu mythique. Mais d'autres habitants l'appellent aussi la tour du malheur et appelaient de ses vœux, de tous leurs vœux, sa destruction. Ça faisait longtemps qu'ils l'attendaient et le coup d'accélérateur qui a été donné là satisfait la plupart des anciens habitants.
Alors, on vient de l'entendre dans le reportage, une clinique privée va s'installer à la Mosson. C'est la grosse annonce de la semaine dernière. La clinique Clémentville va déménager en 2028 à l'entrée de la Mausson. Véronique Brunet, comment avez-vous réussi à convaincre cette clinique de s'implanter à la Mausson, très rapidement?
Je vous remercie de poser la question de la santé sur ce quartier. Effectivement, cette annonce a été tonitruante. Monsieur le maire a eu des échanges avec les responsables de la clinique Clémentville et je ne sais pas si monsieur le maire les a convaincus de s'installer à la Mausson ou si ça a été de leur fait qu'ils souhaitaient accompagner la transformation de la ville et du coup installer la clinique côté nord et côté ouest de la ville, puisque la ville était pourvue en clinique plutôt au sud et à l'est. Et le rééquilibrage de la ville vers l'ouest a permis aux dirigeants de la clinique Clémentville de penser à cette installation dans le quartier de la Mausson. Mais permettez-moi très rapidement de vous dire que la rénovation urbaine concerne aussi la mise en place d'une maison de santé pluridisciplinaire, dont les travaux vont commencer très rapidement, qui verra le jour fin 2025, qui sera située sur le Grand Mail, et que les équipes sur place, effectivement, travaillent à solliciter l'installation de professionnels du soin sur l'ensemble du quartier qui, effectivement, est en carence de soignants, mais comme le reste de la ville, je pense, comme d'autres quartiers et, hélas, comme au niveau national.
Très bien. Donc, l'urgence à la Mausson et le manque de médecins généralistes, comme on l'a entendu dans le reportage, est-ce que l'arrivée de la clinique peut favoriser l'implantation de libéraux, par exemple ? Selon vous,
il est évident que l'implantation d'un équipement, quel qu'il soit, public ou privé, a un effet d'entraînement. Et cet effet d'entraînement, je suppose qu'il va favoriser l'arrivée d'infirmières libérales, de médecins, ou que sais-je encore. C'est, en fait, quand vous faites une opération de renouvellement urbain, c'est comme si vous créez un nouveau quartier. Il y a des recettes. Il vous faut des espaces publics, il vous faut des logements. Des logements pour les riches, des logements pour les moins riches. Il vous faut des espaces verts et puis des équipements publics, privés. Et parmi les équipements privés, évidemment, il y a ces équipements de santé qui s'imposent. L'idée, c'est pas de rattraper le coup, c'est d'imaginer le futur. Et d'imaginer le futur en transition, à la fois en transition en termes de transition écologique, de transition climatique, mais aussi en termes de transition sociale. L'idée, c'est évidemment de déghettoiser, si vous me permettez l'expression, ce quartier qui concentre les logements sociaux et qui concentre les difficultés en matière de sécurité publique. Donc, ça passe par des grosses opérations et, à l'évidence, la relocalisation de la clinique Clémentville est très opportune. Ça va être un des facteurs du renouvellement urbain et de fait, de la recomposition sociale et économique du quartier.
Permettez-moi d'illustrer ce qui vient d'être dit, effectivement, et je vous en remercie. La dynamique de transformation et de rénovation urbaine consiste à, par toutes les thématiques, essayer de transformer le quartier, vous l'avez dit aussi en début d'interview, pour y apporter de la mixité sociale, et donc les pôles éducatifs, le commissariat mixte, police nationale et police municipale qui va avoir le jour courant 2025 en est aussi un des éléments vecteurs.
On en parlera également.
D'accord. Et il y a également la transformation du quartier Saint-Paul, l'arrivée du siège social d'Altemed, la rénovation du palais des sports Coubertin, la rénovation totale du centre nautique Neptune, le grand parc Mausson qui sera couturé avec les communes de Juvignac et de Grabel. Bref, effectivement, merci Monsieur Brun, c'est sur tous les tableaux que nous...
On réinvente le quartier.
Exactement.
Donc, au niveau de la sécurité, donc on l'avait rapidement abordé, l'implantation d'un commissariat mixte qui va donc réunir police nationale et police municipale au sein du nouveau carré Uranus semble être plutôt rassurant pour les habitants, comme on l'entend dans le reportage. Mais donc, qu'est-ce que cela va apporter de plus pourquoi avoir choisi un commissariat mixte plutôt qu'un commissariat tout court
Alors, c'est effectivement un choix délibéré. Michaël Delafosse est un maire de gauche, mais qui mise beaucoup sur la sécurité. La sécurité est un fondamental pour pouvoir ensuite améliorer notre vivre ensemble. Donc, depuis 2020, les effectifs de la police municipale ont beaucoup grossi. Il y a eu la création d'une brigade du logement social, la création d'une brigade d'intervention dans les transports en commun. Et effectivement, les collaborations entre police municipale et police nationale se sont renforcées pour mener à bien des missions d'envergure, notamment sur l'ensemble de la ville, effectivement, pas que sur le quartier de la Mausson, afin de mieux coordonner nos efforts et mieux lutter contre le trafic de stupéfiants prioritairement.
Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat s'est déroulé à Montpellier fin septembre.
Oui.
Michaël Delafosse, maire de la ville, a annoncé lors de cette rencontre que Montpellier intégrerait jusqu'à 33% de logements sociaux dans ses nouveaux quartiers. C'est notamment le cas à la Cité Créative, qui a récemment émergé sur l'ancien site de l'école d'application de l'infanterie, qui propose un projet de mixité sociale. Donc Perrine Sauvage, qui est avec nous en studio, s'est rendue sur place à la Cité Créative et s'est interrogée sur cette mixité. Donc est-ce qu'elle est réelle dans ce quartier en pleine refonte ? Perrine Sauvage, c'est à vous.
La Cité Créative, on connaît bien autour de la table, puisque c'est là qu'est notre école de journalisme. Plus que créative, c'est pour l'instant surtout un quartier en création dans l'enceinte de l'ancienne école d'application de l'infanterie près du parc Montcalm. À terme, l'objectif affiché, c'est la création de 2000 logements dont 33% de logements sociaux, une cité créative et inclusive donc. Alors que les logements se remplissent et que d'autres se construisent, j'ai voulu en avoir le cœur net. Cette mixité sociale, elle existe vraiment. Immeubles haut de gamme et piscines sur rooftop, difficile d'y voir la promesse d'un logement abordable et accessible pour tous. Rachel, une copine étudiante, m'a fait visiter son immeuble. Elle loue avec son copain un bel appartement de 45 mètres carrés avec balcon pour 782 euros par mois, charges comprises. Sans accès à la piscine, bien sûr. Ça reste cher pour eux, mais pas trop le choix, c'est trop difficile de se loger à Montpellier. Même son de cloche pour Axel, 25 ans, qui loue, quant à elle, dans l'immeuble d'en face, un 75 mètres carrés pour 1025 euros. Elle pense avoir fait une belle affaire par rapport à la modernité du logement, mais trouve que ça reste cher. Les autres locataires que j'ai rencontrés m'ont largement répété cette contradiction. C'est cher, mais ça reste abordable. Alors, j'ai regardé la définition d'abordable. C'est modéré, pas trop cher. Toujours pas clair, j'ai continué ma route. Je suis tombée sur Denise, retraitée, et Philippe, 61 ans, et en recherche d'emploi. Il loue pour 448 euros un 45 mètres carrés dans la résidence Cadry, conçue par le bailleur social ACM Habitat. Pour eux, la Cité Créative est bien un quartier abordable. Hormis Denise et Philippe, je n'ai pas rencontré d'autres personnes bénéficiant d'un logement social. Pas si étonnant, puisque les quelques 600 logements sociaux, la majorité est encore en construction. Et ça, ça s'entend. La cité vit au rythme des bruits des engins de chantier et des marteaux-piqueurs. La livraison des logements est prévue pour mai 2026. Les propriétaires du quartier sont aussi plutôt satisfaits de leur sort. Ils ont bénéficié de programmes en primo-accession qui leur ont permis d'avoir un prix de vente avantageux avec notamment une TVA réduite à 5,5% au lieu de 20%. Un habitant du quartier me raconte qu'il a pu acheter son appartement de 85 mètres carrés à 235 000 euros au lieu de 400 000 euros. Il décrit même la Cité Créative comme un second Port Marianne. Et pour les plus fortunés, un logement de 220 mètres carrés avec une piscine en vente pour la modique somme de 1 290 000 euros. Côté mixité sociale, on trouvera bien à terme la classe moyenne, logements sociaux et logements de luxe. Et on peut aussi parler de la mixité générationnelle avec les nombreux immeubles résidentiels et les écoles implantées, telles que l'école primaire, l'école supérieure des métiers artistiques, l'ESMA, ou encore notre chère école de journalisme. Maëlle, si tu cherches encore un logement dans le quartier, voilà le paysage.
Merci Perrine. Avec la Cité Créative, on parle de renouvellement urbain. On entend le maire parler de reconstruire la ville sur la ville. Donc c'est un discours qu'on entend assez souvent dans les villes, par exemple. Comment réussir à réinvestir une zone militaire telle que l'EAI, par exemple Alexandre Brun ?
Il y a de très nombreux exemples en France, un peu partout, de réinvestissement de friches urbaines, qu'il s'agisse de friches industrielles ou portuaires, ferroviaires, hospitalières et naturellement militaires ou commerciales. Ces friches, c'est des espaces souvent très vastes qui sont abandonnés par les usagers et qui sont réinvestis par les collectivités. Ça passe par des opérations d'abord d'études, de démolition partielle et de reconstruction. C'est un processus qui est très long, qui est très chaotique et qui est coûteux. C'est-à-dire qu'il faut pour la collectivité qui va s'investir en qualité de maître d'ouvrage public, trouver un équilibre entre les recettes et les dépenses. Si je vous dis ça, c'est parce que je vais aborder la question du logement social. En effet, le logement social, il coûte de l'argent à la société. Et aujourd'hui, on a, grosso modo, dans le département de l'Hérault, 7 demandes de logement social en cours pour une attribution. Ça veut dire que la demande est forte, que le logement fait l'objet de vifs intérêts de la part des demandeurs. Et en même temps, il y a un allongement significatif des délais de livraison, parce qu'il y a davantage de recours, compte tenu de la judiciarisation de la société, parce qu'il faut dépolluer des terrains qui, jadis, étaient militaires ou industriels. Et donc, on arrive à des difficultés. La multiplication des recours, la veille et l'achat des terrains, le processus d'études, les études d'impact environnemental, loi sur l'eau, que sais-je encore, etc., explique des temps longs alors que la demande de logement social est forte. Et en plus, il faut évidemment trouver un équilibre entre les recettes et les dépenses. C'est-à-dire qu'il faut construire du privé pour satisfaire les cols blancs et espérer que les cols blancs viennent. Et c'est une façon de financer, en quelque sorte, le logement social. Il faut trouver un équilibre. Et puis, il faut aussi espérer que de grosses machines comme l'ESMA ou votre école de journalisme en attirent d'autres, de manière à ce que ces équipements public ou privé, puissent faire vivre le quartier et justifier évidemment le fait que la ligne 5 desserve à l'avenir le AI. La question des transports, c'est un autre élément. Alors, un élément de dépenses publiques. Donc, les dépenses, c'est les espaces publics, c'est le logement social, c'est aussi les transports en commun. Donc, il y a beaucoup de dépenses. C'est la raison pour laquelle il faut aussi construire du logement privé. C'est la seule façon, les logements privés et les commerces, finalement, d'avoir des recettes et donc, finalement, de trouver un début d'équilibre pour l'aménageur qu'est la ville. Et le président de l'aménageur, il me semble que c'est aussi le maire de la ville de Montpellier.
Pour revenir sur le quartier de La Mosson, donc 519 ménages ont été relogés, dont un tiers dans le quartier Mosson. Est-ce que les deux tiers restants vont être relogés dans ces nouveaux quartiers ou sont-ils réservés à de nouveaux habitants, Véronique Brunet?
Alors, quand vous me parlez de 500 ménages, vous me parlez essentiellement de la Tour d'Assas. Parce que l'opération de rénovation urbaine sur la totalité du quartier, elle concerne la démolition de 868 logements assimilés à des logements sociaux, à deux tiers, et la reconstruction de 1103 logements qui seront en accès libre ou en accession à la propriété. Et c'est exactement la démonstration que vous faisiez tout à l'heure, Monsieur Brun, je vous en remercie. Favoriser la mixité, c'est favoriser les types de construction, c'est favoriser la mise en place d'espaces communs où on peut se retrouver, où on peut effectivement, comme le temps de la ZAT, vivre ensemble des événements culturels, des événements sportifs. Mais c'est également avoir des conditions de logement et d'accès à nos logements par les transports en commun satisfaisants. Nous essayons à la ville de Montpellier, sous l'impulsion de Michael Delafosse, d'avoir un comportement vertueux dans effectivement construire la ville sur la ville, donc arrêter de désimperméabiliser et de continuer à construire à la parcelle, mais trouver des espaces où nous pouvons étendre les possibilités de logement dans la ville sur l'existant. Parce que, je vous le confirme, la question du logement reste une question cruciale de nos jours.
Alexandre Brun, vous avez alerté dans peut-être vos travaux sur le fait que la politique d'urbanisme à Montpellier reposait sur l'arrivée de nouveaux ménages. Est-ce que selon vous, la politique actuelle va toujours dans ce sens?
L'économie de la région montpelliéraine est principalement, consubstantiellement, de l'économie résidentielle. C'est-à-dire qu'elle repose sur le solde migratoire positif. En gros, on fait des bébés, mais pas assez. Ce qui compte, c'est l'arrivée de nouveaux ménages. Et l'un des problèmes, c'est évidemment que les ménages ne viennent pas forcément avec leur boulot sous le bras. Ça veut dire que accueillir des ménages, c'est une chose, mais il faut aussi accueillir des entreprises capables précisément d'employer ces nouveaux ménages. Et ça veut dire qu'il faut diversifier l'économie, et pas penser seulement aux industries créatives et culturelles. Et Dieu sait qu'elles sont importantes pour vous, je le sais. Mais il faut aussi travailler sur l'évolution du commerce, du grand et du petit, ne pas oublier le commerce de la ville, du cœur de la ville. Il faut évidemment travailler sur l'avenir, c'est-à-dire les plateformes logistiques et des services bien spécifiques au développement de notre société, à l'ubérisation de la société. Et puis, il ne faut pas oublier l'ancrage industriel qui concerne Béziers, qui concerne, on le sait bien, Toulouse, mais Montpellier a toute sa place pour la réindustrialisation. Et donc, finalement, cette économie, elle est résidentielle, mais il faut chercher à tout prix à la diversifier pour que Montpellier ne soit pas une métropole géante au pied d'argile, mais que chacun puisse trouver un travail. Et c'est ça qui va contribuer à la durabilité de la politique publique relative à l'aménagement de l'espace et à l'urbanisme.
On parlait justement de zone artistique temporaire, donc la prochaine aura lieu le week-end du 4, 5 et 6 avril 2025 dans le quartier Mausson. Et puis qui dit culture dit étudiant, parce que nous on est carrément friands de culture. Donc on le sait, on va parler d'étudiants et donc on le sait aussi que le logement à Montpellier c'est compliqué. Maëlle Couillard a vécu ce parcours du combattant, elle nous le raconte tout de suite. Bonjour Maëlle.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors cet été, je me suis lancée dans le projet le plus éprouvant de toute ma vie, trouver un appart à Montpellier. Alors je vous refais le topo. À l'annonce des résultats de mon master, je suis acceptée en journalisme à Montpellier. Donc youpi, joie, champagne, enfin mousseux. Je paye ma tournée à tous mes potes et je m'imagine déjà vivre la Dolce Vita dans la meilleure ville étudiante de France. Je viens de Bretagne, alors la mer à 25 degrés et l'accent chantant du sud me font rêver. L'euphorie passée, je me lance donc dans la quête de la pépite. Un appartement sympa pour environ 500 euros par mois et allez, soyons fous, disons un balcon. Après à peine 30 secondes sur le net, je comprends qu'au vu de mon budget, trois options s'offrent à moi. Première option, me battre à main nue dans une cage de MMA contre les 80 000 étudiants de Montpellier pour obtenir une superbe chambre 9 mètres carrés en colocation avec des cafards parmi les 10 000 disponibles en Cité U. Deuxième option, prier le dieu canicule pour récupérer l'héritage de mamie et me payer un appart dans l'une de ses résidences étudiantes premium avec salle de sport, laverie et tout le tralala. Ou bien, troisième option, investir les 8,50 € restants sur mon compte courant dans une couverture de survie et un réchaud d'occasion. Handicap supplémentaire, j'habite à 900 km de Montpellier, je n'ai ni l'argent ni le temps pour venir visiter moi-même. Challenge ! Mais ça ne me fait pas peur, j'ai affronté 7 années de présidence Macron et une licence de droit, je peux y arriver. Alors je mets toutes les chances de mon côté, je crée des alertes sur Jinka, Seloger.com, Foncia, Le Bon Coin, et pendant des semaines j'envoie 20 mails par jour, je me connecte à 8 heures tapantes pour sauter sur les annonces, je passe des heures au téléphone pour plaider ma cause auprès des agents immobiliers qui daignent me répondre, en vain. Vous comprenez, madame, la période estivale s'est tendue. Bah oui, suis-je bête, la prochaine fois, je ferai ma rentrée à Noël. Mais où sont les logements, sérieux? Une simple recherche, location appartement Montpellier, répond à ma question. Il y a plus de 4000 annonces sur Airbnb à 500 balles la semaine, évidemment. Alors que la rentrée approche, je patauge complètement dans mes larmes. Entre arnaques, dossiers refusés, listes d'attente interminables, je suis au bout du rouleau et je commence à reconsidérer l'option de la couverture de survie. Un tour sur les groupes d'entraide d'étudiants montpelliérains me confirme que beaucoup se trouvent dans la même situation que moi. Des centaines de messages désespérés mendient une chambre dans un EHPAD, une cabane dans les bois ou une place dans un camping. En plus, j'ai voulu faire la maline. Ouais, mais je suis trop indépendante en fait, maman, laisse-moi gérer, ça doit pas être si compliqué que ça. Si. Bon, je finis par avaler mon ego et je demande à ma mère un coup de main. Par miracle, elle connaît vaguement une certaine Katoche qui habite à Montpellier et qui peut visiter pour moi. Mon sort est entre les mains d'une parfaite inconnue, mais je n'ai plus tellement le choix. J'arrive par miracle à décrocher trois visites. Première visite, l'annonce vend du rêve. Joli studio, dans le charme de l'ancien. Bon, en fait, une chambre de bonne, ambiance placard sous l'escalier, avec des toilettes en plein milieu du salon, slash chambre, et la douche chez le voisin. Le tout pour la modique somme de 500 euros par mois, et mon amour propre. C'est les prix sur le marché, justifie le propriétaire, sa Rolex au poignet. Bon, quitte à manger des pâtes au beurre toute l'année, j'élargis mon budget, les secteurs, je réduis mes critères. Parce que bêtement, je pensais qu'à 20 ans, disposer de mes propres toilettes était une ambition raisonnable. Katoche m'appelle en sortant de la deuxième visite. Pas de lumière, ni dans la chambre, ni dans le salon. Mal isolé, le quartier n'est pas sûr. Bon, j'ai envie de lui dire qu'au point où j'en suis, je peux bien m'éclairer à la bougie, dormir en combi de ski, et puis bon, le MMA, je connais déjà. Reste le dernier appartement, la pépite dont je vous parlais plus tôt. 30 mètres carrés, un balcon, mes propres toilettes, en plein centre de Montpellier. Elle le visite, elle dépose mon dossier, bon, j'y crois. L'agence m'appelle. Mon dossier est insuffisant. Comment ça, mon dossier est insuffisant? Mes deux garants gagnent à eux deux 10 fois le loyer, j'ai une lettre de recommandation de mon ancien bailleur et le bon profil. Parce qu'on va pas se mentir, si une petite blanche au nom bien français qui fait des études de terroriste intellectuel galère à trouver un appartement, je n'ose même pas imaginer ce que ça doit être pour un français avec des origines maghrébines. Mais que faut-il faire pour obtenir un logement dans cette ville? Retrouver Xavier Dupont de Ligonnès? Fournir une lettre de recommandation signée par Barack Obama? Alors, le fin mot de l'histoire, c'est que j'ai trouvé un appartement. Je m'éclaire à la bougie, je mange des pâtes aux pâtes, mais je n'ai pas à me plaindre, j'ai un toit sur la tête. Beaucoup n'ont pas cette chance et enchaînent les galères alors que la rentrée est passée depuis 2 mois. Autant dire que pour ce qui est d'étudier sereinement, on repassera. Alors pour ceux qui cherchent encore et faute de mieux, je vends une superbe couverture de survie toute neuve et un réchaud dans le charme de l'ancien.
En 2 mots, Véronique Brunet, et pour répondre à Maëlle, les étudiants n'ont pas accès aux logements sociaux. Est-ce que quelque chose est pensé pour eux dans tous ces travaux?
Mais complètement, j'ai beaucoup de compassion pour Maëlle et toutes ses souffrances et j'espère que finalement l'appartement trouvé lui convient aujourd'hui. Effectivement, Altemed, je ne sais pas si vous connaissez, qui regroupe le bailleur social qui est en lien avec la ville ACM, avec l'aménageur de la SERM et de la SA3M.
Sans vouloir vous couper, au plus court.
Ok. Propose des solutions de logement étudiant. Nous avons des cités étudiantes chez le bailleur social ACM. ACM fait également, en lien avec une association qui s'appelle l'AFEF, des colocations solidaires des CAPS, les CAPSeurs qui sont logés dans le quartier populaire qu'est la Mausson et qui, en contrepartie d'un loyer très modéré, doivent donner quelques heures par semaine de soutien à une association du quartier. Vous l'avez évoqué, des opportunités de chambre dans un EHPAD en lien avec le CCAS de la ville de Montpellier à prix tout à fait modéré sont également possibles. Et la ville fait son maximum en organisant 3 journées de salon du logement en réunissant des bailleurs privés et publics pour proposer aux étudiants un soutien et un accompagnement dans cette fameuse recherche de l'appartement si difficile, je le comprends complètement.
L'autruche, c'est fini pour aujourd'hui, mais au nom de toute l'équipe, je remercie nos 2 invités, Véronique Brunet et Alexandre Brun. Merci aux auditeurs d'avoir suivi cette édition de l'autruche, l'émission qui vous sort la tête du sable. Bonne fin de week-end et à très vite sur Divergence FM.
C'est le bipède le plus rapide au monde.
Pas ça, non!
Ses articulations et tendons très élastiques génèrent une puissance phénoménale. Il confère aux volatiles vitesse et foulée bondissante.
Non! Non!
Qu'est-ce que cela peut bien être?
Un moineau? Un bijou?
Peut-être un corbeau?
L'autruche est le plus grand oiseau actuellement vivant, mais elle est incapable de voler.
Il est bien connu que les autruches, au long cou, enfouissent leur tête profondément dans le sable quand elles se sentent menacées.
Faire l'autruche, c'est refuser de voir un problème en espérant qu'il s'en aille tout seul.
Ah! C'est embêtant, non? Les oiseaux, c'est les mecs!